service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 10 avril. Chérubin Orsil à Washington, accompagné de Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, RCA, les casques bleus seront sur place d'ici la mi-septembre. Le Conseil de sécurité a donné son feu vert aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un consensus global parce que la décision a été prise à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. C'est un signal fort.
En RDC, opposition et société civile mettent en garde contre toute révision de la Constitution au profit du président Kabila.
Ce serait vraiment une grande perte si la majorité présidentielle cherchait à se maintenir indéfiniment au pouvoir.
En Côte d'Ivoire, l'opposition dénonce la reconfiguration de la commission électorale par le gouvernement. Ukraine, les russophones de l'Est accepteront-ils les ouvertures de Kiev ?
Le président par intérim Oleksandr Turchynov se dit prêt à officialiser sa promesse, mais la réponse des manifestants pro-russes se fait attendre.
Promesse d'une amnistie, bien sûr. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert pour le déploiement de casques bleus en Centrafrique. La force africaine, la MISCA, sera donc remplacée par la MINUSCA, une force onusienne. Idriss Fall.
La résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité sur proposition de la France autorise le déploiement de 10 000 casques bleus et 1 800 policiers en Centrafrique. Ils formeront la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en RCA. Au plus tard, le 15 septembre, ces casques bleus prendront la relève de 6 000 soldats de la force africaine. L'Union européenne a promis 800 hommes, dont les premiers éléments des gendarmes français ont commencé hier à patrouiller à Bangui. La résolution autorise l'armée française à prêter main forte à la MINUSCA en employant tous les moyens nécessaires. La priorité des casques bleus sera la protection des civils. Pour ce faire, ils sont autorisés à employer la force et pourront confisquer, détruire les armes des nombreuses milices dans le pays. Donc la MINUSCA, à titre exceptionnel, se voit confier des pouvoirs de maintien de l'ordre. Elle pourra décréter un couvre-feu et procéder à des arrestations. Le commandement de cette force de l'ONU sera confié à un Africain, comme exigé par l'Union africaine. Sur le terrain, la tension reste vive à Dekoa, dans le centre du pays, où les affrontements entre les ex-Seleka et les anti-Balaka ont fait près de 30 morts, pour la plupart des civils. À Bangui, deux soldats français de Sangaris ont été légèrement blessés hier après une attaque à la grenade, alors qu'ils patrouillaient dans le quartier combattant, non loin de l'aéroport.
Le gouvernement ivoirien a décidé en Conseil des ministres mercredi de lancer la recomposition de la Commission électorale indépendante, la CEI. Selon Bruno Conné, le porte-parole du gouvernement, la nouvelle CEI aura 13 membres contre 31 auparavant. À Abidjan, le FPI, le principal parti d'opposition, dénonce une prise de décision unilatérale du gouvernement. Sébastien Danon-Djedje est le responsable en charge des élections au Front populaire ivoirien.
Nous avons proposé qu'on crée des nouvelles commissions sur une base consensuelle. La base consensuelle, ça veut dire que les leaders politiques, les partis politiques sont appelés à une concertation d'ensemble pour qu'on réfléchisse sur la nouvelle mouture d'une commission électorale indépendante qui puisse inspirer confiance. Ce n'est pas encore le cas. Le gouvernement ne nous a pas encore écoutés. Il est rentré seul en laboratoire et il sort une commission électorale indépendante. Je n'en connais pas la composition, mais dans tous les cas, cette commission électorale-là ne pourrait pas être celle que nous préconisons. D'autant plus que le gouvernement lui-même a commis une ONG américaine qu'on appelle NDI qui est venue faire la prospection sur le terrain, laquelle NDI a proposé un format de la CEI. J'espère qu'ils en ont tenu compte. Si ce n'est pas le cas, écoutez, nous n'accepterons pas une commission électorale qui ne fait pas confiance. Une commission électorale indépendante qui n'est pas indépendante.
C'était Sébastien Danon-Djedje du FPI.
Reprise ce soir à Nouakchott du dialogue pouvoir-opposition sur l'élection présidentielle prévue entre mai et juillet. La semaine dernière, le FNDU avait claqué la porte aux discussions préparatoires. Il réclame des changements au sein des institutions et des structures électorales et un gouvernement consensuel. Juste avant la rencontre, la VOA a joint Kanamidou Baba, délégué du FNDU.
Le président de la République lui-même, dans sa conférence de presse à Ouagadougou, il a dit que tout était négociable sauf le gouvernement d'union nationale. D'abord, je précise que nous ne demandons pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement consensuel. Mais cela dit, nous disons qu'il ne doit pas y avoir de conditions. Ce que nous voulons, c'est les garanties qui nous permettent de dire que ces élections seront transparentes, seront consensuelles et qu'elles sont crédibles par voie de conséquence. Sur un point, soyons clairs, ce n'est pas un report pour un report que nous demandons. Si on reporte les élections et qu'on aille aux élections également dans les mêmes conditions que celles qui existait et qui existe encore, il est évident que ce report n'a aucun sens. Et nous voulons nous assurer que les forces armées n'interfèrent pas dans le champ politique par rapport à ces élections et l'opacité qui règne au niveau de l'agence chargée du registre des tirs sécurisés n'est guère faite pour nous rassurer. Nous avons besoin d'un audit du fichier électoral. Nous ne demandons pas des choses extraordinaires. Mais tout ce qui a rapport avec l'élection présidentielle devra faire l'objet d'un examen minutieux.
En Afrique du Sud, le coureur paralympique Oscar Pistorius, de nouveau à la barre ce jeudi pour contre-interrogatoire. L'accusation tente de le dépeindre comme un égoïste dans sa relation avec sa petite amie Riva Steenkamp, qu'il a tuée en février de l'année dernière. Le procureur cherche à convaincre la cour que l'accusé a agi délibérément, alors que Pistorius prétend avoir tiré par erreur, croyant qu'il s'agissait d'un intrus. S'il est jugé coupable, il risque une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, le président Oleksandr Turchynov promet l'amnistie pour les manifestants pro-russes s'ils déposent les armes et lèvent le siège des bâtiments publics qu'ils occupent dans l'est du pays. Le point avec Michel Joseph.
Le président par intérim Oleksandr Turchynov se dit prêt à officialiser sa promesse, mais la réponse des manifestants pro-russes se fait attendre. Ils n'ont pas quitté les bâtiments publics qu'ils occupent à Luhansk et Donetsk et réclament des référendums pour le rattachement à la Russie, comme cela s'est fait le mois dernier en Crimée. Hier, le ministre ukrainien de l'Intérieur avait mis en garde les insurgés, affirmant que leur occupation des bâtiments devrait se terminer dès demain par la négociation ou la force. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a envoyé une lettre aux dirigeants européens menaçant de perturber les livraisons de gaz vers l'Europe si la dette gazière de l'Ukraine envers la Russie n'était pas résolue. Washington pointe Moscou du doigt. La diplomate américaine Victoria Nuland affirme que le siège des bâtiments ukrainiens était soigneusement orchestré, bien planifié et bien ciblé.
Le suspense est à son comble dans la recherche du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars dernier avec 239 personnes à bord. Les équipes déployées ont encore détecté d'autres signaux pouvant émaner des boîtes noires de l'avion. Les précisions de Timothée Dunangmaï.
14 avions et 13 navires ont fouillé aujourd'hui une zone d'environ 57 000 km² dans le sud de l'océan Indien, à quelques 2300 km au nord-ouest de la ville australienne de Perth. Les autorités australiennes affirment qu'un de leurs avions a enregistré un possible signal dans un secteur où des sons similaires avaient été captés en début de semaine. Angus Houston, maréchal retraité de l'armée de l'air qui coordonne les recherches, dit qu'il espère que tout cela permettra de découvrir l'épave de l'avion malaisien dans un futur proche. Ces développements sont pourtant loin d'impressionner les gens en Malaisie. Oui, Bon Seo, commerçant à Kuala Lumpur. Nous, Malaisiens, tendons à tout prendre avec une pincée de sel. Il y a toujours un dernier développement, une dernière nouvelle concernant les signaux acoustiques captés dans le sud de l'océan Indien. Je ne sais pas, je suis pessimiste. Les batteries des boîtes noires ayant une durée de vie limitée, c'est une véritable course contre la montre qui est ainsi engagée par les équipes de recherche.
Un des principaux candidats à l'élection présidentielle en Afghanistan appelle à la transparence dans les opérations de dépouillement. Interrogé ce jeudi sur un possible second tour, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah, a déclaré au service afghan de la Voix de l'Amérique qu'il est plus important que le processus soit juste et légitime, indépendamment de qui gagne finalement le vote du 5 avril. Selon la commission électorale indépendante de l'Afghanistan, plus de 45% des bulletins de vote ont été saisie, mais elle dit ne pas pouvoir publier de résultats partiels avant d'avoir compté les bulletins dans au moins 20 des 34 provinces. Un décompte final n'est pas attendu avant la mi-mai. Abdullah Abdullah et l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale Arash Ghani, sont donnés favoris.
Troisième phase des élections parlementaires en Inde, deux soldats sont morts et trois autres blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe dans l'état oriental de Bihar. Dakar. Les autorités accusent les rebelles maoïstes qui avaient juré de perturber le scrutin qui s'étale sur un mois. Plus de 800 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. L'opposition nationaliste hindoue veut remplacer le parti du Congrès qui est au pouvoir depuis 10 ans.
Ici aux États-Unis, le point sur l'attaque au couteau qui s'est produite hier dans une école de Pennsylvanie. Les médecins disent que 5 étudiants restent dans un état critique après avoir été poignardés par un camarade de classe. Alex Hirbal, 16 ans, est accusé de tentative d'homicide. Au total, il a blessé 22 personnes. La police indique qu'il était armé de 2 couteaux et a attaqué ses victimes peu avant le début des cours. Son avocat souhaite une évaluation de l'état de santé mentale de son client.
Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 à Washington. Chez Robin Dorsil, en compagnie de Morgane Guiriec pour Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Sans surprise, les Nations Unies ont voté ce jeudi l'envoi d'une force de 12 000 hommes en Centrafrique, Morgane.
Cette force de maintien de la paix ne devrait pas être opérationnelle d'ici le 15 septembre. Le ministre centrafricain des Affaires étrangères a fait le déplacement à New York pour assister à l'événement. Nicolas Pinault a joint Toussaint Kongo Doudou.
Une réaction de joie et de reconnaissance aux membres du Conseil de sécurité pour avoir eu le courage de voter cette résolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un consensus global parce que la décision a été prise à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. C'est un signal fort envoyé à la RCA et c'est un espoir pour nos populations à la quête de la paix, de la sécurité et qu'il y ait plus de compréhension et de dialogue entre nous pour promouvoir la paix dans notre pays.
12 000 casques bleus d'ici le mois de septembre, est-ce suffisant, n'est-ce pas trop tard?
Mais commençons avec ce que nous pouvons avoir, ce qu'on peut mobiliser. Mais si ce sont des hommes qui ont tous les moyens, qui sont déterminés, ça ne pose pas de problème. Il n'est jamais trop tard pour agir et le processus, trouver un consensus, ce n'est pas facile. Les opérations de maintien de la paix coûtent très cher et avec les crises, les problèmes que nous avons aujourd'hui, les États ont beaucoup d'engagements financiers ailleurs. Ce n'est pas trop tard, au contraire, l'ONU agit vite.
Et concernant l'embargo sur les armes, quelle est votre position?
L'embargo doit supprimer de fait pour équiper les forces qui sont formées, reconnues comme telles, bien identifiées par notre gouvernement et également par la communauté internationale. L'embargo sert à éviter que les groupes, les personnes qui n'ont pas droit à détenir les armes puissent les avoir. Mais je crois que ça ne doit plus s'appliquer aux forces régulières de défense et de sécurité qui sont formées et répertoriées, bien encadrées. Cela ne doit pas être un handicap qui puisse nous permettre de remettre à flot nos forces de défense et de sécurité. Je suis à New York en ce moment, j'ai des contacts, des négociations sont en cours, mais je crois que ça ne posera plus un problème dans l'avenir.
Quelle est aujourd'hui la priorité en Centrafrique?
Il faut rétablir la sécurité, il faut permettre aux populations déplacées sur le plan humanitaire de rentrer chez eux. Il faudra que l'administration soit redéployée au niveau de tout le territoire national. Et pour cela, la sécurité reste l'élément clé. Je crois que avec cette résolution qui vient d'être votée, c'est une bouffée d'espoir pour le peuple centrafricain.
Est-il crédible de toujours vouloir organiser les élections d'ici février 2015?
C'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est dans la feuille de route et nous avons promis le faire. Bon, maintenant, il ne faut pas organiser des élections pour les élections, que ces élections puissent être contestées. Nous, notre souci, c'est qu'il n'y ait pas de doute de la part de la communauté internationale ou de la part de certains de nos compatriotes.
Toussaint Kongo Doudou, ministre centrafricain des Affaires étrangères.
Parlons de l'élection présidentielle dimanche en Guinée-Bissau, 2 ans et 1 jour après le coup d'État qui a empêché la victoire du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Les électeurs voteront aussi pour élire leurs députés, un scrutin qui a lieu suite aux fortes pressions de la communauté internationale. Mais les problèmes de fond demeurent. Nicolas Pinault a joint pour une analyse Vincent Fouché, The International Crisis Group.
Il a fallu une très très forte pression internationale pour avancer. Il a fallu que la CDAO, qui est un partenaire majeur du pays depuis le coup d'État, s'agace de payer les factures. Alors, il y a eu des améliorations quand même. On a un nouveau fichier électoral qui est un fichier assez riche, hein, un fichier bien renforcé par rapport à l'élection précédente. Et puis, on a une ambiance de campagne quand même un peu tendue. Hein. Il y a eu des incidents, il y a eu quelques agressions contre des hommes politiques, des menaces.
Est-ce que l'état financier de la Guinée-Bissau n'est pas finalement le principal obstacle ?
Alors, c'est un des problèmes, c'est effectivement que c'est un état qui est très pauvre. C'est un état qui tire une bonne part de ses revenus de l'exportation de la noix de cajou. C'est un État qui dépend très largement de ses bailleurs, hein, 50% du budget. Et donc, on a eu des luttes dans la petite élite politique, économique et commerciale et militaire de Bissau qui sont très intenses parce qu'au fond, les positions de pouvoir sont aussi les positions grâce auxquelles on accède aux rares opportunités économiques.
Est-ce que, selon vous, l'armée respectera le verdict des urnes ?
Je crois que c'est assez difficile à dire. On a l'impression quand même que l'armée, ou en tout cas une bonne partie de la hiérarchie militaire, a un candidat qu'elle préfère. On a quand même une situation un peu différente du coup d'État de 2012. On a une implication internationale plus forte. On a la CDAO qui est là pour essayer de faire tenir le jeu. C'est difficile de dire maintenant dans quel sens ça peut partir. Je pense que tout est vraiment possible.
Vincent Fouché, joint à Bissau.
En République démocratique du Congo, les opposants mettent en garde contre une possible révision de la Constitution. La dernière révision remonte à 2011, mais dans sa récente feuille de route pour les élections régionales et locales, la CENI propose un scrutin au suffrage indirect.
Cela nécessiterait, Morgane, c'est ce qu'on fait remarquer à Kinshasa, une modification de la charte fondamentale. Opposants et leaders de la société civile s'inquiètent d'une tentative de pérennisation du pouvoir de Joseph Kabila. Nous en avons parlé avec l'homme politique congolais Georges Alula.
Actuellement, le Congo a besoin de changement de leadership à la tête de ce pays. Ça fait 6 mois que la concertation nationale est terminée. Le gouvernement de cohésion nationale n'a pas toujours été mis en place. Les tentatives d'investissement dans les pays se butent à l'échec par l'absence de gouvernement et l'absence de crédibilité de ceux qui dirigent ce pays. Donc, le changement de leadership devient imminent. Les gens qui veulent aider notre pays doivent nous aider à changer le leadership dans ce pays pour mettre le Congo dans une nouvelle direction, qu'il puisse jouer son rôle important sur le marché international en matière des ressources et sur le plan économique, énergétique, et jouer son rôle pour le développement de l'Afrique tout entière.
Que pensez-vous des efforts réels ou supposés et qui viseraient à changer la charte fondamentale de la RDC ?
Aujourd'hui, la tentative de toucher la Constitution pour avoir un troisième mandat à durée indéterminée est totalement déplorable. Et il aurait été souhaitable que le gouvernement actuel puisse donner la chance à la République démocratique du Congo de pouvoir vivre une alternative en 2016 paisible et surtout de créer les conditions pour que les différentes échéances électorales puissent se passer dans la paix. Et je crois que ce serait vraiment une grande perte si la majorité présidentielle cherchait à se maintenir indéfiniment au pouvoir, car je pense que l'histoire nous rappelle que lorsque Mobutu est resté plus de 32 ans au pouvoir, l'appel de l'extérieur pour pouvoir quitter et permettre une alternance, ça s'est terminé par une guerre qui n'a pas arrangé la situation.
Une réalité qu'on ne peut pas ignorer, Monsieur Alula, et qui n'a pas vraiment contribué à promouvoir l'alternance démocratique en RDC, c'est que l'opposition n'arrive pas à s'unir, surtout en période électorale.
Il est certes vrai et plus réaliste de pouvoir former une coalition au niveau de l'opposition pour combattre la majorité présidentielle, ce qui sera probablement notre cas, se mettre ensemble autour des plateformes. Mais c'est sûr et certain que le choix de la population va se baser sur les programmes et sur la capacité et le leadership que vous présentez à la population.
Georges Alula a déclaré à La Voix de l'Amérique qu'il est candidat à l'élection de 2016 en RDC.
Et nous restons dans ce pays. Voilà les témoignages des 100 citoyens journalistes. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Charlie Kassereka pour 100 citoyens journalistes de La Voix de l'Amérique à Goma. Dans 3 grandes villes de la province du Nord Kivu, à savoir Goma, Beni et Butembo, la vie des enfants et celle des femmes enceintes est en danger depuis le début des grèves des infirmiers il y a 6 mois maintenant. Pas donc de vaccins pour les nouveau-nés des enfants, ni de consultations prénatales pour les femmes enceintes. Les infirmiers de la province du Nord Kivu réclament leur salaire qui se serait volatilisé au niveau du bureau de la division des finances ici en province.
Ils ont déjà mené toutes les démarches pacifiques devant le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, devant le bureau du gouvernorat, mais aussi démarches pacifiques sous la pluie et sous le soleil partout dans la ville. Mais jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de solution. Mais c'est cette semaine qu'ils ont été reçus par le gouverneur des provinces, Gilles Paluku, qui leur a demandé seulement 14 jours pour voir comment trouver la solution à ces problèmes. Et pour le médecin inspecteur provincial du Nord-Kivu, M. Dominique Babo a appelé ses infirmiers à penser bien à la vie de la population avant les salaires, car si la grève continue, les dégâts seront énormes pour les enfants et les femmes enceintes.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
L'armée libyenne dit avoir repris le contrôle de deux ports pétroliers dans l'est du pays. C'est suite à des négociations ardues avec les autonomistes qui exigeaient une plus grande part des revenus du pétrole. Camille Gros-Didier.
En vertu d'un accord intervenu après un blocus de 9 mois, les terminaux pétroliers de Zouitina et Al-Arga, qui étaient contrôlés par des groupes armés, ont rouvert. Ceux de Sidra et Ras Lanouf, à l'ouest de Benghazi, sont toujours aux mains des milices, mais les pourparlers se poursuivent. L'accord a porté sur la formation d'une commission d'enquête sur la corruption, le versement d'arriérés de salaire aux gardes des installations pétrolières et l'abandon des poursuites judiciaires contre les auteurs du blocus. Selon le ministre libyen de la Justice, Ali Mirkani, une commission va être mise sur pied pour enquêter sur les allégations de corruption, comme l'exigent les insurgés. Les ports de Ras Lanouf et Sidra sont toujours sous contrôle d'Ibrahim Jadran, chef de milice allié au gouvernement régional autoproclamé de Barka, qui a néanmoins reconnu le transfert des terminaux de Zouitina et Al-Hariga. Le colonel Ali Sheikhi confirme que le terminal d'Al-Hariga est actuellement sous le contrôle de l'Arabian Gulf Company, dépendant de la Compagnie nationale libyenne de pétrole. La Libye exportait plus de 3,5 millions de barils de pétrole par jour avant le renversement de Muammar Kadhafi en février 2011. Mais l'occupation des ports avait empêché les exportations de brut et fait chuter la production alors que le gouvernement central a besoin de liquidités pour financer ses opérations.
Le monde aujourd'hui, place au sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Les quarts de finale, retour de la Ligue Europa.
Et après la Ligue des Champions, l'autre coupe européenne, la Juventus de Turin accueille l'Olympique Lyonnais avec un but d'avance. Le FC Valence aura 3 buts de retard à remonter contre le FC Bâle. Le Benfica de Lisbonne l'avait emporté 1-0 à Alkmaar. Enfin, le FC Porto ira à Séville après sa victoire 1-0 à l'aller.
La Fédération internationale de football a publié ce jeudi l'édition de son classement.
Et oui, ça bouge au niveau du classement FIFA en Afrique. Sur le continent, la Côte d'Ivoire reste la première nation africaine et progresse de 3 places, 21e. L'Égypte devient la deuxième nation africaine, 24e, en doublant l'Algérie pour 3 petits points. Le Nigeria dépasse la Tunisie alors que le Maroc gagne une place.
En athlétisme, Nicolas, la sanction tombe pour Asafa Powell.
Le Jamaïcain, ancien détenteur de record du monde du 100 mètres, a été suspendu pour 18 mois après avoir été contrôlé positif à un stimulant. C'était en juin de l'année dernière. Annonce ce jeudi de la commission de discipline du comité antidopage jamaïcain. La suspension du champion olympique 2008 du 4x100 mètres prendra fin le 28 décembre 2014. Le sprinteur a dénoncé dans un communiqué, je cite, une décision non seulement déloyale, mais aussi clairement injuste.
Et dans la NBA, ça semble bien marcher pour Chicago.
Eh oui, Chicago, 6e victoire d'affilée mercredi soir face à Minnesota, 102-87. Toronto a battu Philadelphie, 125-114. Indiana, grâce à son douloureux succès sur Milwaukee, 104-102, reste en tête de la conférence Est grâce à la défaite de Miami à Memphis, 107-102.
Voilà les sports sur la Voix de l'Amérique avec Nicolas Pino.
Roger Muntou vient d'arriver en studio. C'est donc l'heure de la page musicale. Salut Roger.
J'aime bien comment tu... Morgane me présente là. Roger Muntou vient juste d'arriver en studio. Mais salut Morgane.
Elle n'a pas menti. Hein.
Ben, c'est vrai en plus. Mais le ministre conseiller du président sénégalais Macky Sall ne rate jamais alors l'occasion de valoriser le génie qui sommeille en lui après avoir sorti une chanson pour la paix en Centrafrique. Youssou N'Dour vient de lancer le 4 avril, date historique du Sénégal, hein, indépendance du Sénégal. Je ne sais pas si Chérubin savait ça, mais voilà. Fatelikou, un album que nous aurons à écouter dans une émission spéciale la semaine prochaine, bien sûr. Mais d'abord aujourd'hui, on écoute ma chanson préférée, Birima.
Fatelikou, qui veut dire souvenir en français, si, si ma traduction est bonne.
Parce que... ouais, mais bien sûr, ça vient
je traduis même l'anglais.
Ça vient d'Idriss Fall, donc c'est clair.
D'accord, ouais. Alors on le croit.
Ouais.
Un album de 4 titres, plein de nostalgie. Et avec ce nouvel album, Youssou N'Dour rend hommage à la jeunesse.
C'est ça, Morgane. Et il fait également l'apologie de l'éducation de base fondée sur la politesse. La star sénégalaise a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie chaque année, hein, à la même date, d'un album de 4 titres.
C'était Youssou N'Dour, Birima. Merci Roger.
De rien Morgane, à bientôt.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Aujourd'hui, sur La Voix de l'Amérique, c'est la fin de cette édition mise en onde par Michel Joseph. Alors, Morgane, nous avions notre bon ami Wagner Robert à la console.
Oui.
Et merci d'avoir été en notre compagnie, chers amis. Ici, Chérubin Dorsil.
Et Morgane Guiriec.